Vous écoutez France Culture.
Non mais Benoît, c'est quoi ce truc? On va où là?
Je peux pas vous dire, Venez, suivez-moi.
C'est tout bizarre. Ça fait un peu peur, non?
Oui, c'est normal, c'est les abris anti-atomiques.
Ah ouais, mets ça. Vous êtes sûr que c'est par là? C'est 4 fois qu'on tourne à gauche.
Oui, mais je vous dis, c'est normal. La maison est ronde.
Escalier C, ouais. On est perdu, quoi, c'est ça?
Non, non, non.
Dites-le, on est perdu.
Mais non! C'est bon, on va se retrouver.
Hé, c'est bloqué. Impasse. Non, on est paumé.
Non, mais ça y est, il panique. Ça y est, il panique.
On est paumé.
Benoît Lagan,
Éric Vera,
série télé,
l'Amérique en 24 épisodes.
Ce soir, épisode 2,
Twilight Zone, l'Amérique de Rod Serling.
Benoît, c'est bien vous?
Oui, ça y est, je suis de retour.
Bon, ça me rassure. On va enfin pouvoir parler de l'épisode précédent.
Allez.
Alors, dans cet épisode précédent, en fait, on a parlé des débuts de la fiction télé, comment, en fait, elle a puisé ses origines dans le roman feuilleton, mais aussi dans les process de fabrication et de la radio, où il y avait déjà de la fiction, et puis dans la série B, pour son côté, on va dire, tournée très vite et de manière peu coûteuse. Hein. Alors, pour l'heure, on revient dans les années 50, le genre roi, c'est la dramatique, souvent tournée en direct, et puis peu à peu, des cases s'installent, on va voir, en fait, toutes ces dramatiques en direct, trouver des thématiques, par exemple les grands chefs-d'œuvre de la littérature, ces dramatiques live vont avoir un point commun et ça va devenir ce qu'on appelle les anthologies.
Les anthologies, il y en a énormément dans les années 50. On évoquait dans l'épisode précédent le Kraft Television Theater, financé par la société Kraft Foods Company. Il y a eu General Electric Theater, The Chevrolet Télé Theater. On voit bien que c'est les sponsors qui finançaient ces anthologies. Mais là, on est dans une collection, se rapproche plus des pièces radiophoniques adaptées à la télévision. Qu'est-ce qui différencie ces pièces radiophoniques de l'anthologie télé? Enfin, qu'est-ce que est l'anthologie télé?
Donc on pourrait se lancer dans une petite définition. Je dirais que l'anthologie, c'est une collection d'histoires, hein, donc avec un format donné, mais en fait, elles n'ont aucun élément récurrent. Donc si on accepte le générique, qui va être le même, le format qui, a priori, va être le même d'épisode en épisode, et puis, dans certaines, il y aura un narrateur ou ce qu'on pourrait appeler un hôte, hein, donc quelqu'un qui va présenter l'émission et qui va peut-être mettre le téléspectateur sur la piste de la thématique du jour.
Ce présentateur, ce narrateur...
On connaît tous le même, c'est Alfred Hitchcock, j'imagine que vous avez
voilà,
parlé de ça.
Voilà, en 1955, ouais. C'est un des premiers, du moins très connus, qui fait ça. La quatrième dimension, c'est 4 ans plus tard, 1959. Avec la quatrième dimension, on a Rod Serling, qui est l'auteur, le créateur de cette anthologie. Au départ, lui, il ne veut pas jouer ce rôle de narrateur. Lui, ce n'est pas son job. Ce qu'il veut, c'est être simplement auteur. Sauf que CBS a l'idée d'embaucher Orson Welles pour être l'hôte de cette série. Sauf qu'Orson Welles, il coûtait quand même assez cher. Donc, ils ne peuvent pas faire avec lui. Et c'est Rod Serling qui est obligé d'ouvrir et de fermer chaque épisode. Il n'est pas très à l'aise. Ce n'est pas son truc. La légende dit... que les réalisateurs et les techniciens de l'époque auraient tourné les séquences de répétition, séquences où il aurait été vraiment meilleur que quand on le lançait en disant « c'est à toi, Rod ».
Un peu comme nous, quoi.
Voilà, c'est ça.
Pour info, on a le souvenir donc, de Rod Serling qui effectivement introduit chaque épisode. Donc il est dans la pièce là où l'action va se dérouler. Faut pas oublier que tout ça ne vient qu'à partir de la deuxième saison. Lors de la première saison, c'est assez inhabituel, mais ce narrateur, il est en fait en fin d'épisode et il raconte ce qui va se passer la semaine suivante. Donc là, on voit bien qu'on a quitté la dramatique complètement indépendante et qu'on va vers une forme sérielle qui donne des rendez-vous et qui dit aux téléspectateurs ne manquez surtout pas cet épisode, il va être génial.
Je vous présente James W. Corey. Son univers, une cabane et une vieille voiture rafistolée qui ne peut l'emmener nulle part parce qu'il ne peut aller nulle part. Pour votre information, James W. Corey est un criminel en train de purger sa peine. Il devra passer l'intégralité de sa détention sur cette planète isolée dans la solitude la plus totale. Véritable prison à 9 millions de kilomètres de la Terre. Vous avez devant vous un homme confronté aux rigueurs du soleil et du froid. Un homme qui se meurt de solitude.
Au-delà de l'histoire qui est plutôt intéressante, ce qui est vraiment fascinant, c'est la manière dont ces épisodes étaient produits. On est finalement avec très très peu de ficelles capable de faire croire des choses extraordinaires aux téléspectateurs.
Alors Eric, pour aller plus loin dans la Twilight Zone, on va rencontrer Jean-Baptiste Thoré, qui est connu des auditeurs de France Culture parce qu'il participe tous les samedis à l'émission de François Angelier, Mauvais Genre.
Oui, Jean-Baptiste Thoré, journaliste, mais surtout universitaire, qui enseigne sur le cinéma des années 70 et surtout qui est un grand spécialiste du cinéma de genre. Twilight Zone, pour lui, c'est vraiment le creuset de toute une génération et il en parle effectivement avec grande connaissance et avec passion.
Twilight Zone arrive en fait à un moment charnière à la fois de l'histoire de l'Amérique et du cinéma américain. Charnière parce qu'on est déjà à la fin en 59, on peut dire de l'époque classique du cinéma américain, que tous les schémas qui fonctionnaient, enfin d'un point de vue du récit, des personnages, d'une espèce de vision un peu pleine de la société et extrêmement respectueuse à l'égard des valeurs bourgeoisées, finalement d'un monde plein, cohérent et qui valait le coup d'être vécu, on pourrait presque dire. Ça, c'était le cinéma classique américain. En 59, c'est quasi déjà fini. Que tout se craquelle. Et on pourrait dire que Twilight Zone arrive à ce moment-là. C'est une série qui, finalement, à la fois prend acte de la fin du classicisme, autrement dit qu'on ne peut plus raconter des histoires comme avant, ça c'est une évidence, et en même temps qui n'a pas encore franchi le pas, dans la mesure où la grande révolution du film américain aura lieu au milieu des années 60 et en 67-68 avec des films comme Le Loréal, Easy Rider, Bonnie and Clyde, Rosemary's Baby, etc. Donc la Twilight Zone, c'est un peu dans l'entre-deux. Alors, ce qui est aussi passionnant, c'est que c'est aussi toute une série qui fait déjà le bilan des périodes sombres de l'Amérique de l'époque. Le maccartisme, évidemment. On pourrait dire qu'en voyant la série Twilight Zone, on a une photographie assez exacte de ce que c'est que l'Amérique des années 50. C'est qu'à la fois, évidemment, la question de la paranoïa est présente, les chasses aux sorcières, tout ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la série. Et surtout, le début, qui sera repris terriblement dans ces années 70, par la biais de la science-fiction, parce qu'il ne faut pas oublier que Rod Serling a eu du mal à imposer ça, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait la guerre, qui a été parachutiste, qui a écrit des scénarios qui, pour beaucoup, ont été refusés, hein, pas suffisamment consensuels dans le cadre de la télévision américaine, et qui a l'idée géniale un jour, évidemment, de passer par la voie de la science-fiction, à l'époque qu'on considère comme inoffensive. Aujourd'hui, on serait plus subtil, probablement. Mais à l'époque, non. Ça reste de la science-fiction, des mannequins, des doubles, de jeux avec le temps, des robots, des extraterrestres. Tout le monde s'en fout, hein. C'est pas, en tout cas politiquement ça ne dira rien. Or évidemment on sait très très bien que c'est le genre, mais que ce soit la télévision ou le cinéma, a toujours été la voie d'accès la plus subtile, radicale, contrebandière, hein, comme disait Scorsese, d'un discours sur la société. Même s'il ne faut pas réduire la qualité de ces séries-là à leur dimension, on pourrait dire, sociale ou politique. Elles ont une valeur esthétique, artistique en elles-mêmes.
Je doute que mes propos vous apportent la moindre consolation. Mais j'avoue qu'il est difficile de venir 4 fois par an assister à l'agonie d'un homme innocent.
Vous avez raison, Allenby. C'est une bien maigre consolation.
Je ne peux vous apporter la liberté. En revanche, j'essaie de vous apporter ce qui vous évitera de sombrer dans la folie. Quelque chose qui vous aide à lutter contre la solitude.
Hé, hey, capitaine! Vous voulez qu'on ouvre cette caisse?
Non, pas tout de suite. Attendez-moi dehors, j'arrive.
Il faut y aller. Je serai de retour dans 3 mois. Quand vous ouvrirez la caisse, vous n'aurez rien à faire. La chose en question a été emballée sous vide. Elle n'a besoin d'aucun simulateur d'aucune sorte. L'air s'en chargera. Vous trouverez le mode d'emploi à l'intérieur de la caisse. Cory, ils ne savent pas ce que je vous ai apporté. J'aimerais bien que vous attendiez qu'on soit parti pour ouvrir.
Bon retour, Allenby. Donnez le bonjour de ma part à Broadway.
Entendu, Cory.
Je pense à l'épisode 9e étage, par exemple, qui est un des derniers épisodes de la saison 1, où une femme se rend dans un grand magasin et veut acheter un petit dé à coudre en or pour l'offrir à sa mère. On lui dit bah, c'est au 9e étage. Au 9e étage, elle se rend compte que c'est absolument désert. Il y a juste une femme qui l'attend et qui lui vend. Il n'y a strictement rien, pas d'étalage, pas de boutique, rien du tout. Mais il y a un dé à coudre. Et donc, elle a ce qu'elle est venue chercher. On se rend compte, moyennant les chutes classiques de la Twilight Zone, que cette femme est finalement fait partie des mannequins du magasin qui ont droit à chacun un mois de vie et de liberté parmi les hommes normaux. Donc ça, que le processus d'inversion de Twilight Zone, le martien est finalement un humain, l'humain est finalement un martien, le jeu entre les humains et les robots, entre ceux qu'on pensait morts et ceux qui ne le sont pas, et qu'il y a toujours le passage à un moment donné par l'au-delà, enfin... La Twilight Zone, ça veut dire, nous on a traduit ça par quatrième dimension, ce qui est complètement ridicule encore une fois, ça décrit un moment particulier lorsqu'on conduit un pilote un avion, ou au moment de l'atterrissage ou le décollage, je ne sais plus, mais le pilote ne voit plus la ligne d'horizon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, comme quoi par moment, même de façon par coïncidence et par hasard, on tombe sur des choses qui sont très fortes. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est la perte de contrôle et c'est l'idée qu'il y a la perte du référent. Et ça, c'est la vie. S'il y a un thème central qui court dans Twilight Zone, après, on pourra reparler des milliers d'autres thèmes qui courent dans la série, mais il y a un absolument permanent qui est la question du relativisme. C'est-à-dire que tout dépend du référent qu'on a pour juger de la réalité et du monde dans lequel on vit. Et cette disparition de la ligne d'horizon, c'est évidemment la perte du référent. C'est cet épisode, par exemple, où on voit une femme plutôt très très belle en train de se faire opérer, on ne comprend pas très bien pourquoi, chute du film, plan large, on se rend compte que ceux qui l'opèrent sont tous monstrueux. Alors c'est évidemment un épisode sur les canons de la beauté, et que dans un monde où tout le monde est monstrueux, celui qui est beau est monstrueux.
Capitaine, dites-moi, d'homme à homme, qu'est-ce qu'il y a dans la caisse?
À vrai dire, je n'en sais rien. Peut-être une illusion qui, j'espère, sera son salut. On verra. On y va.
Vous êtes l'heureux propriétaire d'un robot construit pour avoir l'apparence d'une femme. Cette invention a toutes les caractéristiques d'une femme. Elle a été programmée de façon très sophistiquée. Elle est en mesure de ressentir des émotions, de penser, de raisonner, de se souvenir et de parler le même langage que nous. Elle ne peut contracter aucune maladie. Et dans des conditions de vie normales, elle est tout à fait en mesure de mener la vie d'un être humain. Elle s'appelle Alicia.
Je m'appelle Alicia. Comment t'appelles-tu?
Va-t'en d'ici. Je t'ai dit de partir d'ici. Je ne veux pas d'une machine. Allez, va-t'en d'ici!
Je m'appelle Alicia. Comment t'appelles-tu?
Je pense que, pour la petite histoire, que Matheson, qui a collaboré à beaucoup de scénarios de Twilight avec Bradbury ou d'autres, mais en tout cas Matheson, qui est quand même en littérature ce que Rod Serling a été à la série télévisée, c'est-à-dire que c'est quand même l'inventeur de ce qu'on appelle le fantastique moderne. Ce qu'invente, à mon avis, Rod Serling, Matheson, et puis tout ce réservoir d'actes de cinéastes qui vont faire leurs armes dans l'écurie Twilight Zone, c'est finalement, c'est que le fantastique, c'est juste une façon décalée de voir le monde. Moi, je pense que pour comprendre l'influence de Twilight Zone, il faut avoir en tête finalement ce que ça, les 4 ou 5 thèmes ou directions que ça propose. Mais c'est le comment est-ce qu'on passe finalement de la fiction classique à la fiction moderne. L'idée de la paranoïa permanente, l'idée d'un monde qui fait plus sens et qu'il faut déchiffrer en permanence, l'idée d'une identité qui est douteuse, c'est quelque chose de très très moderne. Dans la fiction classique, l'identité elle est pleine, une et indivisible, on pourrait dire. On ne se pose pas de questions sur la réalité du héros, ou on pourrait dire ses différentes facettes. Lorsqu'on voit un personnage du cinéma américain ou de la série télé américaine classique, on a un personnage qui est plein, donc on ne doute pas de son identité, alors que dans Twilight Zone, les personnages passent leur temps à se demander qui ils sont vraiment. L'idée donc du jeu fragmenté, ça c'est quelque chose qui est aussi typique de la fiction moderne, donc qu'on retrouve forcément partout.
There is a fifth dimension, beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. This is the dimension of imagination. It is an area which we call the Twilight Zone.
Depuis le début de cet épisode, nous parlons de Rod Serling. Rod Serling, c'est le grand créateur donc, de la quatrième dimension. Il est né en 1924, il a été parachutiste pendant la guerre. Et après-guerre, il fait ses premières armes à la radio. Il est primé notamment à l'occasion d'un concours de nouvelles radiophoniques. Et ce qui lui permet d'écrire des scripts qu'il va proposer à différentes anthologies. L'anthologie Suspense, l'anthologie Studio One. Et il écrit notamment pour le Kraft Television Theater. C'est en 57 qu'il propose à CBS le scénario d'un film qu'il a intitulé Time Element et qui se veut le pilote de la future Twilight Zone.
Westinghouse, first with the future, presents the Westinghouse Desilu Playhouse.
Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to another Westinghouse Desilu Playhouse. Tonight, we're going to see a story written by Rod Serling and starring William Bendix. Our story begins in a doctor's office. A patient is sitting there. He walked into this office 9 minutes ago.
Dans Time Element, ce qui est intéressant, c'est que toute la thématique Rod Serling, elle est présente. Rod Serling, ancien militaire, qui est hanté par la guerre, qui a beaucoup de questionnements sur le temps, sur la réalité. Et là, bon, dans le cas de Time Element, on est dans une histoire où un homme pense pouvoir prévenir l'attaque contre les États-Unis à Pearl Harbor par les Japonais. Et donc, on est complètement là-dedans. On est donc face à quelqu'un qui se demande s'il est dans un rêve ou dans la réalité, quelqu'un qui peut jouer avec le temps. Donc, c'est vraiment des thématiques qui vont être après complètement utilisées. Quand on parle de Rod Serling, on parle de, on va dire, d'une des 15-20 grandes personnalités de la télévision américaine, genre confondu. C'est vraiment un créateur prolifique, quelqu'un qui a vraiment écrit toute sa carrière. Dans le cas de Twilight Zone, on peut dire que c'est vraiment sa chose, hein, parce qu'il l'a créé et puis après il a supervisé tout au long de la série sa production, en lançant des gens comme Ray Bradbury, en lançant des gens comme Charles Beaumont, comme Richard Matheson, qui sont de très grands écrivains, mais c'était quand même Rod Serling qui était là-haut et qui gérait tout ça.
Oui, pour la petite anecdote technique, quand CBS signe avec Rod Serling, elle signe en lui disant « Rod, tu auras 50% des droits d'auteur, mais tu nous dois 80% des scripts de la première saison », ce qui est énorme. C'est peut-être assez intéressant pour voir comment l'échiquier peut-être se compose en termes de production. Il est créateur, auteur, en chef de sa série, il est producteur de sa série. Et il embauche des scénaristes et des réalisateurs pour écrire des films dans l'esprit de son œuvre.
C'est la préfiguration des séries modernes, hein, avec un créateur showrunner, donc quelqu'un qui mène le show, qui va le produire, et puis effectivement qui va faire venir des gens pour écrire. Il ne peut pas écrire tout seul tous les épisodes. Donc on est vraiment dans ce modèle-là. Après, l'histoire de cette fiction télé, elle est jalonnée de guerres entre des auteurs-créateurs et puis les studios et les grandes chaînes pour des questions de droits, des questions d'argent. Hein. Et là, typiquement, Rod Serling va quitter la série au milieu pour des problèmes effectivement financiers. Il a envie que la série aille vers tel type de production avec des moyens. Et puis de l'autre côté, du côté studio, du côté de la chaîne, on n'a pas forcément envie de ça. Donc il y a un divorce.
En France, le réalisateur est souvent auteur-réalisateur. C'est la tête pensante du programme qu'il fabrique. Aux États-Unis, on le voit bien par rapport à ce que vous disiez à l'instant, Eric. C'est le producteur, créateur, scénariste qui est au centre de l'histoire. Le réalisateur, lui, ne doit qu'appliquer une recette.
La place du réalisateur est beaucoup plus compliquée dans le cadre de la série télé. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on revoit aujourd'hui l'épisode de Twilight Zone, mais c'est vrai de beaucoup d'autres séries télévisées américaines, finalement, on se fout de savoir qui l'a réalisé. Alors moi, ça m'intéresse, évidemment, de me dire d'aller voir Sarah Fian, futur réalisateur de Point Limite Zéro, un des plus grands films des 70s, tourner un film, de voir Don Siegel tourner en son 3 style avec Lee Marvin. Je me dis, oui, c'est déjà du Siegel. Mais à certains, c'est pas le cas du tout. À certains, c'est juste un savoir-faire formidable avec un certain nombre de contraintes, tant de jours de tournage, un récit extrêmement balisé par Serling. Parce que la marge de manœuvre des cinéastes dans le cadre de la Twilight Zone, on voit bien qu'elle est extrêmement faible. Une intro qui est toujours la même, au bout de 6-7 minutes, je veux dire, d'abord inscription dans la banalité du familier, quelque chose de très très nouveau à l'époque, l'idée que l'étrangeté surgit dans le... On n'est pas sur Mars, on n'est pas dans le cratère rouge, on n'est pas en Transylvanie ou à Haïti, hein, on est dans l'Amérique urbaine. Enfin, c'est la pré-Amérique burtonienne, en fait. Les petites banlieues un peu propres, tout va bien, on connaît le laitier, le boulanger, etc. Puis là, d'un seul coup, il y a une bouteille à moitié vide. Et là, dans le détail, à la Buzzati, s'introduit le récit. Bon, tout ça pour dire que le récit, il est hyper cadré. C'est-à-dire qu'on sent vraiment qu'on a, en gros, au cours des 23-24 minutes qu'ont duré, en tout cas, les 137 ou 138 premiers épisodes, on a un découpage en temps qui est extrêmement précis. On a évidemment des acteurs qui sont imposés, on a des lieux de tournage qui sont imposés. Donc la marge de manœuvre, on pourrait dire, du cinéaste, elle est quasi inexistante. Donc là, on est du côté du savoir-faire, de l'entraînement. Et puis par moments, il y a des perles où un cinéaste arrive à conjuguer à la fois des contraintes extrêmement lourdes, enfin des contraintes, on pourrait dire un cahier des charges plutôt extrêmement lourd, et puis une thématique personnelle, ce qui était le cas par exemple de Siegel.
Collected works of Dickens. Collected works of George Bernard Shaw. Poems by Browning, Shelley, Keats. Great dramas of the world. Books. All the books I'll need. All the books I'll ever want. Shelley, Shakespeare, Shaw. All the books I want.
Quand je pense à la quatrième dimension, je pense à un épisode en particulier, Question de temps, qui raconte l'histoire de Henry Beamers, qui est un petit banquier qui est fou amoureux de littérature et qui passe son temps à lire, et qui survit à un cataclysme nucléaire. Alors à l'époque, quand j'ai vu cet épisode, dans ma vraie vie, mes parents luttaient contre l'implantation d'une centrale nucléaire, et donc cet épisode faisait sens parce que je me disais, et si... il arrivait la même chose. Si la centrale nucléaire à côté de chez moi explosait, qu'est-ce que je ferais ? Non seulement, contrairement à Henry Beamers, je ne pourrais pas aller me réfugier dans un coffre-fort de banque. Il n'y avait pas de cave à la maison. Et en admettant que je survive et que je trouve vivre et libre, ce qui était le cas d'Henry Beamers dans la quatrième dimension, moi, que ferais-je sans télévision ?
And the best thing, the very best thing of all, is there's time now. There's all the time I need and all the time I want. Time. Ah, there's time enough at last.
Rod Serling se dit pas un matin de 59, bon, tout va mal, finalement, je vais essayer de faire une série qui va remettre en fait la fiction à l'heure de l'Amérique telle qu'elle est. Évidemment pas ça. Hein. Si ce n'est que dans l'air du temps. C'est ça qui est toujours un grand cinéaste ou un grand créateur, c'est quelqu'un qui est, c'est Serge Danet qui disait ça, c'est quelqu'un qui est à l'heure. La plupart sont toujours un peu en retard. Un grand, c'est quelqu'un qui est à l'heure, qui sait juste saisir quelque chose qui est déjà là, mais que d'autres ne voient pas forcément, qui s'est cristallisé. Et Rod Serling, il est juste à l'heure dans l'histoire de la fiction américaine. Et puis, Et on le sent très très bien. On parlait au début de l'évolution du cinéma classique américain, etc. C'est aussi une série qui, indépendamment des problèmes d'aliénation, hein, qui est quelque chose de très important, qui va arriver terriblement dans la fiction américaine des années 60 et 70. L'idée qu'on est aliéné. On est aliéné par le monde, aliéné par la politique, aliéné par rapport à nos désirs, etc. À la société de consommation, il y a une énorme critique dans les zones permanentes de gens qui veulent plus, qui veulent être éternels, qui veulent vivre plus longtemps, qui arrivent dans des salles de Las Vegas pour jouer, qui veulent avoir beaucoup, beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'il y a le mirage, enfin, ce qui était un rêve. Et une utopie réalisée, on pourrait dire, dans les années 40, début des années 50, de la société de consommation, devient un mirage qu'on dénonce, et ça, c'est en partie Twilight Zone.
Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais surtout d'esprit. Un voyage dans une contrée dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la quatrième dimension.
Alors l'inconvénient en fait quand on crée une série monument comme Twilight Zone, c'est que derrière, pour continuer, c'est toujours très compliqué. Rod Serling, on le reverra à la télévision après Twilight Zone. Dans les années 70, il va produire Night Gallery, qui est plus ou moins la petite sœur de Twilight Zone. Simplement, c'est une autre époque, une époque où Rod Serling a vieilli bien sûr et a moins la main sur sa création. Les studios sont bien plus directifs et donc D'un point de vue créatif, c'est nettement moins enlevé. Il n'empêche que c'est quand même la série qui va, par exemple, permettre à des gens comme Steven Spielberg de se faire la main en filmant des petites histoires de 45 minutes.
Twilight Zone a été le terreau de nombreuses productions futures. Rod Serling meurt en 1975. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que 6 ans après, Carol Serling, son épouse, décide de créer une revue, la Rod Serling Twilight Zone Magazine. Une revue qui sortait tous les 2 mois, dans laquelle on retrouve non seulement des scénarios de Rod Serling, mais aussi il y a des parties du magazine où on offre des pages à des auteurs pour écrire des nouvelles dans l'esprit de la Twilight Zone. C'est assez amusant que ça arrive en 1981 parce qu'il y a un retour de la Twilight Zone dans les années 84-85 avec, vous parliez de Spielberg, un film de cinéma et une nouvelle version à la télé.
C'est une série qui est un petit peu hybride, qui va d'un côté emprunter des histoires déjà existantes de Bradbury, de Matheson, qui avaient été tournées dans les années 50, et puis de nouveaux scénarios. L'intérêt, c'est de voir éventuellement une nouvelle vision de cette série avec, on va dire, un contexte des années 80. Mais globalement, bon, là, on peut le dire, l'original suffit.
Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, n'essayez donc pas de régler l'image. Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec Au-delà du réel.
Au-delà du réel, effectivement, c'est la réplique, hein. Aux États-Unis, en tout cas dans le monde de la télévision, on a ce fameux processus de l'innovation, après de l'imitation et puis de la saturation. Et donc, une fois que Rod Serling a la bonne idée de créer cette série qui mélange, on va dire, le fantastique, l'étrange avec le réel, d'autres vont suivre. Outer Limits, vous voyez, c'est l'autre limite, puisque en fait, dans Outer Limits, on est plus dans une veine horrifique, avec beaucoup de monstres vus, on est moins dans le suggéré. Et d'une certaine manière, ça marche moins, on a moins peur, on est moins intrigué. Mais on peut déjà aussi parler d'Alfred Hitchcock, qui avant Twilight Zone était déjà un petit peu sur la crête, hein. Bon, Alfred Hitchcock, généralement à la fin, donnait la réponse, laissait pas les gens dans l'expectative, mais on était déjà dans quelque chose qui dérangeait et qui faisait peur. Je pense aussi à Thriller, par exemple, une série qui a été écrite par Robert Bloch, qui est un immense écrivain américain, notamment dans le domaine de la nouvelle, et qui, là, encore une fois, surfe d'un côté sur des enquêtes policières, puis de l'autre sur des enquêtes un petit peu étranges.
Alors, à propos d'enquêtes policières, à propos d'Alfred Hitchcock présente, je vous arrête là, Eric, parce qu'on en reparle demain dans le 3e épisode de notre émission.
Bon, Benoît, là, ça y est, on a fini. On va peut-être pouvoir sortir maintenant.
Oui, mais suivez-moi.
Et au fait, les DVD, est-ce que je pourrais quand même me remettre la main dessus? Parce que moi, je suis sûr, c'est... Du tout.
C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes.
Mixage Pierre Mine, réalisation Lionel Quentin.
Une émission de Benoît Lagane et Éric Vérin.
Poursuivez votre voyage dans la quatrième dimension sur notre site franceculture.com et découvrez d'autres univers dans Générique, le magazine de la culture série.
À demain, bonne nuit.
And now, Mr. Serling.
Thank you, and good night.
Il est 23h sur France Culture. Dans un instant, retrouvez Pierre Chevalier pour Sur les Docks. Mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes-annonces.